שבוע טוב וחודש טוב והכל טוב וחורף טוב et bonne pluie en perspective.
Amen.
Voilà, tout ça.
Alors, j'appelle, je coupe les micros et je les réouvre 15 minutes avant la fin et je vous tiens au courant que je les rallume. Donc voilà. Okay. Voilà, je préfère vous dire. Donc voilà, Toda Rabba Rav, et ben on est parti à Rav.
Yofi. Alors, Boker Tov, les Koulam, et on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. Dans cette yeshiva online, alors désolé pour la semaine dernière, voilà, j'étais dans l'avion et donc je ne pouvais point me connecter. Les amis, on a passé deux cours à expliquer, si vous voulez, les introductions de ce que c'est que cette Torah Kabbalah, à quoi vient-elle répondre. Aujourd'hui, ça y est, nous rentrons concrètement dans l'histoire de Torah Kabbalah. Dans notre cours, nous allons essayer de comprendre quelles sont les différentes périodes de l'enseignement de la Kabbalah et à chaque fois, comme on l'a présenté dans les introductions, eh bien de voir à quoi doit-on faire face. Car il faut bien comprendre une chose. Comme on l'a dit, la Kabbalah eh bien, tient pour place de remplaçante après la névoie. Donc, ça veut dire que tant qu'il y a la névoie, on ne parle pas de Kabbalah. D'accord ? On parle de névoie. Et donc, aujourd'hui, quand on va dire qu'on ouvre notre cours sur l'historique de la Kabbalah, eh bien, nous ouvrons avec un personnage qui fait le lien entre la période de la prophétie et la période après la prophétie. Quelle est cette personne? Eh bien, nous allons aujourd'hui nous concentrer autour, du moins dans un premier temps, autour du personnage de Shimon HaTzadik. Venons, on essaie de se représenter un tout petit peu sur la frise chronologique où est-ce qu'on est. Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Shimon HaTzadik, vous pouvez le mettre plus ou moins aux années moins 300. Entre moins 350 et moins 300. D'accord? C'est la période. Alors, comprenons bien. La névoie s'arrête quand? Il y a une phrase qu'on a l'habitude de raconter qui n'est pas vraie au niveau historique, mais qui est mentionnée pourtant dans le Midrash, parce que le Midrash n'a pas forcément vocation historique. Le Midrash va nous dire que Haggai, Zecharia et Malachi, donc les trois derniers prophètes, sont morts tous les trois le même jour, et c'est le jour où Alexandre le Grand est rentré à Jérusalem. Alors, c'est faux à deux niveaux. D'abord, parce que Haggai, Zecharia et Malachi ne sont pas morts le même jour, et deuxièmement, ils sont morts bien avant que Alexandre le Grand ne rentre à Jérusalem. Haggai, Zecharia et Malachi vivent les premiers jours du second temple, c'est-à-dire que, de notre point de vue, ils vivent dans les années moins 480. Et donc, ça paraît quand même un petit peu compliqué qu'ils soient toujours vivants dans les années moins 330. C'est-à-dire, donc non, ils ne sont pas morts le jour où Alexandre est rentré, mais le Midrash veut nous dire quelque chose. Semble-t-il que l'entrée d'Alexandre, c'est-à-dire de la Grèce, marque la fin de la période prophétique. L'entrée de la philosophie, arrêt de la prophétie. Donc, autre chose. D'accord ? Dans nos textes à nous, dans la Guémara, eh bien, on va nous raconter l'histoire de la rencontre entre Shimon HaTzadik et Alexandre le Grand. Est-ce que cette histoire mentionnée, alors l'histoire mentionnée dans la Gemara est très, très rocambolesque. On a un Alexandre qui fait la conquête du monde et finalement il arrive en Israël. Et lorsqu'il arrive en Israël, eh bien nous sommes ici en Israël en guéguerre avec les Chomronim. Et alors que les Shomronim ont préparé une délégation pour aller voir Alexandre, lui demandant de détruire le Beth Amikdash, eh bien, Shimon HaTzadik a précédé les Shomronim et vêtu de ses habits de Kohen Gadol, il vient voir Alexandre, il vient à sa sortie, à côté là-bas de Apollonia, et il va aller l'accueillir, en fait. Et Alexandre nous dit la Gemara que lorsqu'il l'a vu, s'est prosterné devant lui. Ah, tous les conseillers d'Alexandre ne comprennent pas pourquoi tu te prosternes devant un juif qui arrive. Mais ils ne comprenaient pas, à chaque fois qu'on fait la guerre, la veille des combats, je fais un rêve et je vois une silhouette qui me bénit et qui nous protège pour gagner les combats. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas qui c'était. Eh bien, c'est lui. Et voilà, et donc, grande rencontre entre les deux. Finalement, Alexandre écoute la doléance de Shimon HaTzadik qui lui demande non seulement de ne pas détruire le Beth Amikdash, mais de s'occuper du Mikdash des Shomronim. Alexandre dit OK, et en reconnaissance, eh bien, Shimon va donner l'ordre que cette année, tous les enfants qui naissent s'appelleront Alexandre ou Alexandra. Et c'est ainsi que le nom Alexandre est rentré dans le peuple juif. OK ? Ça, c'est tel que c'est mentionné chez nous. Mais est-ce que cette rencontre est mentionnée chez eux ? Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que ça ne fait pas sérieux ce qui a marqué dans la Gemara. Et donc, forcément, quand on est un juif qui veut se la jouer intellectuelle, s'il y a un texte qui est marqué dans la Gemara et qu'on nous dit dans la Gemara qu'Alexandre le Grand a rencontré Shimon, c'est forcément faux. Mais s'il y a marqué dans un texte grec, alors c'est forcément vrai. C'est-à-dire, c'est fantastique de voir comment, à l'université, le postulat de départ est que les Juifs racontent des bêtises et que les Goyim forcément racontent la vérité. Mais bon, nous, il se trouve qu'il y a un texte chez eux. Alexandre était accompagné de son rabbin. Le rabbin d'Alexandre n'était autre que Aristote. Et Aristote avait un élève qui le suivait partout qui s'appelait Clearchos. Et Clearchos a écrit les mémoires d'Aristote et il raconte en fait plein de ses voyages, plein d'enseignements et tout ça. Et à un moment donné, donc, il raconte le passage en Israël et Clearchos raconte que Aristote a rencontré en Israël, en Judée, un juif du nom de Siméon, Shimon, qui était à ce moment-là le chef des juifs. Intéressant. Et il raconte que ce Siméon a commencé à parler avec Aristote et Aristote a été subjugué de la sagesse de ce juif. Et il a dit cette phrase fantastique, il a dit « Cet homme est tellement sage qu'on pourrait presque penser qu'il est grec. » Pas mal. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Shimon HaTzadik fait le lien, le pont entre le monde de la Névoa et le monde qui va devoir faire face à Aristote, à Alexandre, à la culture grecque, à la philosophie. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Shimon HaTzadik aya mishiare Knesset Agedola. Et là, c'est intéressant. Parce que Knesset Agedola, c'est là qu'on retrouve les derniers prophètes. Alors, on a parlé de Zecharia, Haggai, Zecharia et Malachi. Ce sont les derniers prophètes avec leur nom. Mais il y a d'autres prophètes qui étaient les derniers prophètes qui faisaient partie d'Anche Knesset Agedola. Vous savez, Anche Knesset Agedola, c'est 120 sages de la Grande Assemblée d'Israël. Sur ces 120 sages, il y avait 83 d'entre eux qui étaient les derniers prophètes. Shimon HaTzadik fait partie de ces Shiare Knesset Agedola. C'est le dernier vestige de cette identité-là. Et donc, Shimon HaTzadik est vraiment celui qui fait l'intermède, le passage à la non-prophétie. Il est donc le premier Mekoubal. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on passe de l'un à l'autre? La prophétie, vous avez bien compris, c'est Dieu qui parle. Donc ça veut dire, pour traduire ça en français, il y a un ressenti palpable de la présence du divin dans ce monde. Ok ? Si tu es au niveau, Dieu te parle directement, mais même quand tu n'es pas prophète, dans le monde entier, il y a un ressenti palpable de la présence de Dieu. Ça, c'est le monde de la prophétie. Shimon HaTzadik va faire le lien avec le moment où il y a une shrintonet, c'est-à-dire une petite shrina, jusqu'au moment où Bichlal la shrina commence à s'en aller. On dit la Gemara dans le traité de Shabbat que toute la vie de Shimon HaTzadik, il y avait le dernier véritable miracle, puisque durant la vie de Shimon HaTzadik, Ner Ma'aravi Tamid Ayadolek. La bougie occidentale de la menorah ne s'éteignait jamais. Ah, c'est un miracle qui est vachement plus fort que le miracle de la petite fiole d'huile de Hanouka. Hein. Là, je ne te parle pas de la brûler pendant 8 jours. Moi, je te parle qu'elle ne s'éteignait jamais. Et Shimon HaTzadik, il a vécu 120 ans. Et ça voulait dire quoi, nous dit la Gemara ? Et doute le chol bae olam, c'était un témoignage que la shrina régnait au sein du peuple juif. D'accord ? Donc, Shimon HaTzadik fait véritablement ce lien-là. Il y a encore un dernier témoignage de la shrina qui est dans le peuple juif, mais où est-ce qu'elle est plus ? Eh oui, si maintenant la shrina elle est dans le peuple juif, où est-ce qu'elle est plus ? Elle n'est plus dans le monde. C'est-à-dire que nous, à l'intérieur du Beth Amikdash et après du Beth Amidrash, on ressentira encore une connexion avec Dieu Erchéou, mais là où Dieu était palpable dans le monde, eh bien maintenant, il ne l'est plus. Voilà la réalité dans laquelle se met en place Torat HaKabbalah. Ok ? Donc Shimon HaTzadik Aya Omer. Ou Aya Omer, Al Shlosha Devarim Aolam Omed. Bah, c'est une Mishnah qu'on connaît bien, Mishnah en Pirkei Avot, premier chapitre. Mais il y a un truc qui est bizarre. Le monde tient sur 3 choses. Il nous dit à la Torah, à la Avoda, Ve'al Gemilut Hasadim. Shimon HaTzadik était lui-même le Nasi à Sanhedrin. Donc la Torah, c'était pour lui. Il était lui-même le Kohen Gadol, donc la Avoda, c'était pour lui. Et en tant que responsable du peuple juif, il était également responsable de ce qu'on appelait l'Ishkat Rasha'in. L'Ishkat Rasha'in, c'était la grande Kupa Tzedaka du Ham Israël. Donc, il était aussi le responsable de Gmilut HaTzadik. Mais maintenant, 2 secondes. Parce qu'il semblerait que le monde de Shimon HaTzadik, le monde de la Kabbalah, dépend maintenant de 3 choses. À la Torah, à la Avoda, vers le Gmilut HaTzadik. Quelles sont les midot? Puisque quand on parle de Torah ta Kabbalah, on parle beaucoup de midot. Quelles sont les midot qui sont nécessaires à la survie du monde? Eh bien, il y a tout d'abord à Torah. À Torah, Ezemidaze. Ensuite, il y a la Avoda, le service divin, Ezemidaze. Et Gemilut Hasadim, ça, c'est le plus facile. Mais Gemilut Hasadim, c'est Chesed. Donc, il semblerait qu'un des piliers, c'est Chesed. Quels sont les 2 autres piliers qu'on a besoin ? Din verachamim. Chesed, din verachamim. Gmilut Hasadim, c'est chesed. Maza Torah. A Torah, c'est adin. Ah, vous allez me dire, oui, mais il y a marqué dans route. Torah Chesed al Leshona. D'accord ? il y a du chesed également dans la Torah, mais la Torah, c'est d'abord et avant tout comment faire la volonté divine. Zedin, et shalacha. Ve'avoda zekede leorer rachmei shamayim. C'est pour amener la rachamim d'Akadosh Baruch. En d'autres termes, nous avons ici une réalité de chesed vedin qui doit être bien sûr mêlée de rachamim. Et le problème, il est le suivant. Il est qu'à l'époque de Shimon HaTzadik, tu peux dire ça. Et pendant encore 300 ans, tu pourras dire ça. Mais après la destruction du Beit HaMikdash, eh ben vous comprenez qu'il nous manque un pilier. Un des trois piliers sur lequel le monde repose, il va nous le manquer à la destruction du Beit HaMikdash. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Nous, on va s'occuper de cette période, la première période de Torah Takabala, qui est une période de 300 ans, entre Shimon HaTzadik et la destruction du Beit HaMikdash. Une période complètement, j'allais dire, absurde, parce que d'un côté, il y a le Beit HaMikdash, mais il n'y a plus la névoie. Ok ? Vous comprenez la dissonance ? Normalement, le Beit HaMikdash, c'est là où Dieu se dévoile. Là, tout d'un coup, il ne se dévoile plus. Et pourtant, il y a quand même tous les symboliques de quand il se dévoilait. Il y a le Beit HaMikdash, on fait les korbanot. Aval en gilu ishrina. D'accord ? Et donc, eh bien, cette Torah va être portée par Shimon HaTzadik et son Beit HaMidrash. Qui est le Beit HaMidrash de Shimon HaTzadik ? Eh bien, le Beit HaMidrash de Shimon HaTzadik est représenté par ce qu'on appelle, dans le langage de l'étude, les Zougot. Toute la période des Zougot, c'est la première période de Torah Takabala qui nous intéresse, à savoir, on a dit, ces 300 années. Les Zougot commencent avec Shimon HaTzadik et terminent avec Hillel et Shammai. Cette période-là, eh bien, il va falloir qu'on essaie de comprendre quel est l'enseignement de la Kabbalah de ce moment-là. Quels sont, alors nous, on n'est pas dans notre cours, on ne rentre pas dans les enseignements, mais on essaie de mettre en surbrillance quelles sont les grandes entêtes, c'est quoi les idées qui sont véhiculées à ce moment-là. Donc, on a dit, Shimon HaTzadik nous a dit, on a besoin de Chesed Din Verachamim. Ok. Son élève, la suite de ce Beit HaMidrash, s'appelle Antigonos Ish Socho. En voilà un nom qui est joli. Qu'est-ce que ça veut dire Antigonos Ish Socho ? Vous savez ce que ça veut dire ? Moi non plus, je ne parle pas grec. Mais ça veut dire que ses parents, Antigonos, ben tu comprends que culturellement, ils n'étaient plus tellement juifs. Quand tu décides d'appeler ton fils Christian, ou Jésus, ou James, ou Richard, ou Didier, ou Albert, le cinquième mousquetaire, eh bien, ça veut dire que l'influence culturelle dans laquelle tu vis n'est plus celle du peuple juif. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir un grand sadique. Mais d'abord, il faut être conscient de la réalité. Quand tu décides d'appeler ton fils Paul, bah, tu es baigné de culture chrétienne. C'est comme ça. Alors, peut-être que tu n'as pas le choix. Hein. Je n'accuse personne. Mon papa s'appelle Paul. Mon papa s'appelle Éric Paul. Maintenant, pourquoi il s'appelle Éric Paul, mon papa ? Bon, parce que Éric, je ne sais pas, mes grands-parents, ils aimaient le mot Éric. Mais pourquoi Paul ? Parce qu'il voulait l'appeler Paltiel, au nom de son grand-père. Sauf que Paltiel, à l'époque en France, on ne pouvait pas donner ce nom-là parce qu'il fallait donner un nom du calendrier. Donc ils ont dit, qu'est-ce qui ressemble le plus à Paltiel ? Paul. Nounou. Mais Paul, c'est aussi le fondateur de christianisme. Donc évidemment qu'on est dans une ambiance culturelle qui est la nôtre quand on est en France, par exemple. Eh bien, Antigonos Ish Socho, il vit dans cette ambiance-là où l'hellénisme, la culture grecque, est partout. mais quel va être son enseignement, parce que ça n'empêchera pas de devenir un Talmid Chacham énorme et de devenir le successeur de Shimon HaTzadik. Mais quel est son enseignement? On a dit Chesed Din Verachamim, mais il y a une autre chose fondamentale qu'on va commencer à évoquer à partir de cette période. Antigonos nous dit la chose suivante. Al tiyu ka'avadim ha-meshamshim et harav al menat lekabel pras, ela yiyu ka'avadim ha-meshamshim et harav shelo al menat lekabel pras, v'im ora shamayim alechem. Ce sont les mishnayot faciles, hein, les mishnayot de Pirkei Avot. Mais il nous dit quoi? Ne soyez pas comme ces serviteurs qui servent leur maître pour recevoir un salaire. Mais faites-le sans volonté de recevoir le salaire. Cette Mishnah-là est fondamentale parce que pour la première fois, un rabbin parle de manière presque pas détournée du Olam Haba, du salaire que tu reçois une fois que tu as fait telle ou telle chose. Eh oui, car durant toute la période de la Nevoa, on ne parle pas de Olam Haba. Il n'est pas fait mention du Olam Haba dans tout le Tanakh. C'est incroyable. Comment ça se fait qu'on ne nous parle pas du Olam Haba dans le Tanakh ? Je veux dire, c'est quand même un élément fondamental du judaïsme. On ne nous en parle pas. Nous dit le Rambam, on ne nous en parle pas parce que c'est difficile à comprendre. On ne peut pas comprendre ce que c'est le Olam Haba, donc on ne va pas parler d'un truc qu'on ne comprend pas. Tov. Dire Rabbi Yehuda Halevi, on ne nous en parle pas parce que ce n'est pas important. Parce que Dieu veut qu'on le dévoile Baolam Azé. Donc ce n'est pas la peine de parler du Olam Haba. Alors comment ça se fait que Antigonos commence à en parler? Eh bien, il commence à en parler pourquoi? Parce que Olam Azé, à leur époque, devient pourri. Ils sont en exil. Donc, comme ils sont en exil, alors il faut se rattacher à quelque chose qui n'est pas Olam Hazé. Et donc, Torah Takabala va se rattacher à une dimension qui n'est pas celle que nous vivons à ce moment-là. Vous allez me dire, bah attends, on est parti en exil à Babylone. Pourquoi ils n'ont pas parlé du Olam Haba à ce moment-là? Parce qu'il y avait encore la névoie. Yirmiyahu, Echeskel, Chagai, Zecharia, Malachi, plus tard. D'accord? Donc, Shimon HaTzadik et Antigonos Ish Socho vont poser les bases de cette réalité où on a le Beth Amikdash, mais on n'a pas la Nevoa. Il faut donc se rattacher à quelque chose d'autre. D'accord? Atkan, on est bon? Yofi. Et nous avons donc maintenant 200 ans de Chachamim qui vont essayer toujours de garder le même cave, la même ligne directrice jusqu'à Hillel et Shammai. Et quelle est cette ligne directrice? Apnim. Leachnis penima. Toute la Torah, le dévoilement, ne peut pas avoir un retentissement extérieur, mais il est intérieur. On va construire à ce moment-là l'intériorité. À commencer par Yosef ben Yochanan et Yosef ben Yoézer, les successeurs de Shimon, de Antigonos. D'ailleurs, toute la période des Zougotes sera marquée par ce que le patron des Zougotes, Shimon, avait dit, Chesed, Din, Verachamim. Et donc, dans chacun des Zougotes, ils vont par deux, l'un sera Midat HaChesed, l'autre sera Midat HaDin, et de leur ensemble sortira Midat HaRachamim. Le premier couple donc d'entre eux, c'est Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan. Ce sont les rabbins de l'histoire de Hanouka. Oui, on n'en parle pas assez. Hanouka, nous, on parle... Attends, je comprends que du temps d'Antigonos, il n'y a plus de Nevoa. Mais l'âme Israël n'est pas en exil. Mais ben, n'est pas en exil. Eh bien, si. Eh oui. Car la définition de l'exil, mesdames et messieurs, n'est pas de savoir si on est en Israël ou pas, mais de savoir si on est indépendant ou pas. Lorsque nous sortons d'Égypte avec Moshe, Pessah, eh bien nous sommes en Géoula. Pessah, c'est Géoulat Mitzrayim. Il a fait meurtre. Aval, on n'est pas en Israël. Donc nous sommes en Géoula, mais pas en Israël. Alors effectivement, la Géoula n'est pas totale, mais on est déjà en Géoula parce qu'on n'est plus serviteur de Pharaon. On est libre, indépendant. À l'époque de Hanouka, avant Hanouka, bien sûr, hein, je parle à l'époque d'Antigonos, vous m'avez demandé. À l'époque d'Antigonos, eh bien, nous sommes en Israël, mais soumis aux Grecs. D'accord ? Donc, il n'y a plus cette dimension de Géoula. Nous sommes en exil. Effectivement, après Hanouka et la victoire de Hanouka, on sort d'exil. Donc, si vous voulez, l'exil prend fin plus ou moins dans les années moins 160. Et on va retourner en exil. Attendez deux secondes. On va retourner en exil avec sous les Romains. Lorsque les Romains vont arriver et vont annuler l'indépendance juive, eh bien, on va retourner en exil. Après la dynastie hérodienne, on retourne en exil plus ou moins dans les années 30. Quelqu'un me demande aujourd'hui, sommes-nous aujourd'hui indépendants ? Eh bien, la réponse est bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais la question n'est pas au niveau sentimental. La question, on ne se pose des questions qu'au niveau halakhique. Au niveau halakhique, qu'est-ce qui détermine l'indépendance, la souveraineté ? Eh bien, nous dit le Rambam dans Ilchot Gezela Ve'Aveda, au chapitre 5, que ce qui détermine l'indépendance, la malchoute, c'est la monnaie et l'armée. C'est-à-dire, si tu décides de la monnaie et que c'est toi qui décides de quand sortir en guerre ou pas, alors ça s'appelle malchoute. Ainsi donc, eh ben, on est en malchoute depuis 1948, puisque c'est la Banque d'Israël qui imprime le shekel et c'est l'État d'Israël qui m'envoie en milouim. Donc oui, nous sommes indépendants d'après la halakha. Nous sommes une souveraineté. D'ailleurs, même les plus antisionistes, Rav, qu'est-ce qu'il y a ? Rav, je cherchais justement... Non, mais David, t'as dit pas les questions maintenant, c'est ça ? C'est comme ça que ça marche ?
Non, sur le chat, c'est moi. Parce que
sur le chat, c'est bon. Vous avez compris, si vous voulez poser des questions, c'est que sur le chat. Je cherchais justement quel était le vainqueur de cette définition de la malchoute. Et ben voilà, vous l'avez. Mais Kitsour, même les plus anti-sionistes, par exemple le rabbi de Satmar, acceptent la réalité que c'est une malchoute, l'État d'Israël. C'est justement ça qui le dérange. Il dit, parce que c'est une malchoute, alors ça fait écran à la malchoute de Dieu et donc ce n'est pas bien l'État d'Israël. Mais lui aussi reconnaît que c'est une malchoute. Le Makor, j'ai dit, dans le Rambam, Ilchot Gezela Ve'Aveda, chapitre 5. Bekitsur, donc, il faut rentrer à Kol Penima. Yosef Ben Yoezer et Yosef Ben Yochanan nous disent de rentrer Torah Avoda Vigmilut Hasadim à l'intérieur de la maison. Yei Beitra Beitvad Lachachami. Ou alors Yei Beitra Patuach Lirvacha. C'est-à-dire que la construction se fait à l'intérieur de la Bait. À Bait, et je ne vais pas rentrer là-dedans plus en profondeur, ça vous demanderait au Rav Yoel, mais à Bait, c'est ce qu'on appelle Abina. C'est-à-dire la capacité de faire le tri. Abina, c'est le mot bina, c'est le féminin du mot Bein. Bein, ça veut dire entre. Ce qui veut dire en français le discernement. Et donc, quand tu rentres à la maison, eh bien, la maison te permet de faire le tri entre les différents, les différentes informations que tu as reçues à l'extérieur. C'est-à-dire Zéabina. Et donc après, tous les successeurs de cette période-là, donc durant encore 150 ans, vont essayer de continuer à transmettre ce message jusqu'au moment où on va arriver à Hillel Veshamay. Bon, d'abord, moi je pense qu'il faudrait... c'est pas cool ce qu'on a fait à Hillel et Shamay. Parce que rappelez-vous quand même que le mot chamaillé vient de Shamay. Mais ils ont mauvaise presse, Hillel et Shamay, parce qu'en vérité, combien de machlokot y avait-il entre Hillel et Shamay? Combien de fois se sont-ils chamaillés? Alors, d'après le Talmud de Babylone, 3, et d'après le Talmud de Jérusalem, 4. Ça va, c'est pas non plus la folie. C'est vrai qu'entre Beth Hillel et Beth Shamay, alors là, il y a des machlokot toute la journée. Mais Hillel et Shamay, non. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que Shamay n'a pas été la première chavruta de Hillel. Eh oui, Hillel avait d'abord un premier partenaire d'études. Le premier zoug de Hillel s'appelait Menachem. Personne ne le connaît, celui-là. Nous dit la Gemara, Menachem yatsa venichnas Shamay. Mazé Menachem yatsa, où est-ce qu'il est parti? Yatsa le avodat amelech. C'est-à-dire, ce Menachem est devenu, le consultant juif auprès des Romains. En d'autres termes, il est devenu un juif de cour. Shamay devient la bar plukta de Hillel. Et là, nous sommes à une époque, j'allais dire charnière, mais en fait, nous sommes à la fin d'une époque. Nous sommes juste avant la destruction du Beth Amikdash. Si vous voulez situer les années, Hillel, c'est plus ou moins les années zéro. D'accord ? Donc, nous sommes la génération juste avant la destruction du Beth Amikdash. Ceci étant dit, le Beth Amikdash, à ce moment-là, représente une contradiction terrible. Et c'est ça que je veux que vous compreniez bien pour comprendre l'ambiance de la Kabbalah de cette époque. Il y a une contradiction terrible à l'époque de Hillel et Shamay. Lorsque, comment il s'appelait ? Oh là là. Ah, le premier philosophe. Ah là là, comment il s'appelait ? Thalès. Voilà, Thalès. Lorsque Thalès rentrait dans le Panthéon, le Parthénon de Athènes, il disait Kalos, Kalos, Kalos. Au même moment, Ezra, à Sofer, rentrait au Beth Amikdash et disait Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors, Kadosh, on sait ce que ça veut dire. Enfin, même si on ne sait pas trop, on sait que c'est en lien avec Dieu. Mais ça veut dire quoi, Kalos? Ça veut dire c'est beau. C'est beau. C'est beau. Il y a, dans la philosophie grecque, une séparation claire entre l'extériorité et l'intériorité. Chez nous, on sait très bien que la névoie, elle fait se relier extériorité et intériorité. Torah ta Kabbalah, dans la première période qui est la nôtre, celle qu'on est en train d'étudier, elle va justement, on a dit, ramener tout à l'intérieur. Et c'est ça, cette dichotomie terrible qu'il y a au moment de Hillel et Shamay. Le Beth Amikdash est d'une beauté qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Puisque Hillel et Shamay, c'est juste après les grands travaux de Hérode. Ce qui veut dire que là, on a eu un Beth Amikdash qui a été rénové, un truc de fou. Nous dirons nos sages, celui qui n'a pas vu le temple de Hérode n'a pas vu une belle construction de sa vie. C'est magnifique le Beth Amikdash de Hérode. En termes de kalos, zekalos. Aval, il n'y a plus du tout de Shrina dans ce Beth Amikdash. La Keuna est corrompue. Les Kohanim Gdolim achètent leur Keuna Gdola au Rome. La situation est terrible. L'intériorité est complètement inexistante, mais on est au niveau extérieur en mode waouh. Hillel et Shammai font face à cette réalité-là. Et leur Torah est la suivante. Encore une fois, on n'est pas là pour parler de la Torah de la Halakha. Ce n'est pas notre cours. Il y a des machlokot ilchatit entre Hillel et Shammai. Mais ça, c'est la Torah Shebealpé. Ce n'est pas la Torah Tassod. Quelle est la machloket écronite entre Hillel et Shammai? La machloket écronite entre Hillel et Shammai est la suivante. Nous dit Hillel, vous la connaissez, Eve mitalmidav shel Aaron. Oev shalom verodev shalom, oev et abriot umekarvan la Torah. Hillel Azaken, Oev shalom verodev shalom et soit parmi les élèves de Aaron. Aaron zechesed. Aaron zechesed. Et grâce au chesed, tu peux arriver à shalom. Shalom, c'est l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Shammai, lui, te dit Ase toratra keva. Et mort méat, ve assez arbé, alpiadin. Ne te perds pas en blabla. Rappelez-vous de cette autre marloquette entre les deux. Enfin, ce n'est pas une marloquette au niveau de la halakha, mais au niveau de la vision du monde. Rappelez-vous de ce goy qui est venu voir Shammai et qui lui a dit enseignez-moi toute la Torah quand je suis sur un pied. Shammai, il l'a dégagé. Et pourquoi il l'a dégagé? Parce que Alpiadin, Zelomatim, ça ne marche pas. Et Hillel lui dit quoi? Il lui dit tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Le reste n'est qu'un commentaire. Le reste n'est qu'un commentaire. Zelodin, Nachon, Zechesed. Et donc, toute cette période-là, cette période entre Shimon HaTzadik jusqu'à Hillel et Shammai, est la période où tout se passe à l'intérieur. On ne peut plus avoir d'influence avec l'extérieur, on ne peut même plus avoir de contact avec l'extérieur. Il faut bien comprendre que les 150 ans entre la guerre de Hanouka et l'arrivée des Romains, c'est une période, durant la période hachmonéenne, où l'influence juive à l'extérieur n'est pas là. On a gagné, certes, mais on est la risée du monde occidental. Ce n'est que lorsque Hérode va devenir le roi des Juifs à la solde des Romains, que le monde va recommencer à s'intéresser à nous. C'est un vrai problème. Et donc, pendant toute cette période, on va construire l'intérieur. Évidemment, après la destruction du Beth Amikdash, on va devoir se concentrer sur autre chose. Mais là, on construit l'intérieur parce que l'extérieur est une coquille, mais on ne veut pas qu'elle soit vide. Et donc, dans la mesure où, à l'époque de la Névoie, les deux allaient de pair, nous sommes la génération qui est obligée de se concentrer, de mettre le paquet sur l'intériorité. Voilà la Torah Takabala des 300 premières années. Comment est-ce que Chesed, Din, Verachamim se concrétise à l'intérieur de la maison d'Israël? Ce n'est pas le moment de sortir à l'extérieur, c'est le moment de construire son intériorité. Peut-être aussi que les premiers Mekoubalim qu'on vient d'évoquer ont bien compris que dans quelques temps, ils vont être éparpillés à l'extérieur. Peut-être que Beruah Kotcham, ils ont bien compris que d'ici quelques années, l'exil de Rome va frapper et là, eh bien, tout le monde partira en exil un peu partout. Et donc, on sera complètement à l'extérieur. Si tu n'as pas un intérieur fort, alors lorsque tu pars en exil, tu vas complètement être décimé. Ainsi donc, la première période de la Kabbalah vient ancrer à l'intérieur du peuple juif. Qu'est-ce que c'est être un juif? Cette période marque aussi un manque d'unité, peut-être. Pas encore. Dafka, à ce moment-là, vous, quand vous parlez d'un manque d'unité, vous parlez de Sinat Rinam qu'il y aura à l'époque de la fin du Second Temple. Ça, c'est Dafka après Hillel et Shammai. Justement, on a dit Bet Hillel et Bet Shammai commencent à se disputer pour tout et n'importe quoi. Mais il y a deux périodes. Il y a la période Shimon HaTzadik, il y a la période Hanouka, et il y a la période des 150 ans après Hanouka. Les 150 ans après Hanouka, il n'y a pas de problème d'unité dans le peuple juif. La période de Shimon HaTzadik, il n'y a pas de problème d'unité dans le peuple juif. La période de Hanouka, qui dure quand même 100 ans, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, pourquoi ? Parce qu'il y a une grande partie des Juifs qui veulent s'héléniser. Et dans la guerre elle-même de Hanouka, on a tué aussi beaucoup de Juifs. Eh oui, la guerre des Maccabim, c'est bien gentil de dire qu'on a battu les Grecs, mais dans ces Grecs, il y avait beaucoup, beaucoup de Juifs qui se battaient aux côtés des Grecs. Ce qu'on appelle les Juifs mityavnim. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a eu cette période-là, mais je ne dirais pas que c'est un manque d'unité. Je dirais que c'était vraiment une guerre fratricide parce que certains avaient décidé d'abandonner leur judaïsme. Quand on parle de manque d'unité dans le peuple juif, c'est qu'on veut rester juif, mais la façon d'être juif qui est la mienne, c'est la bonne, et la tienne, c'est la mauvaise. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, il y en a qui ne voulaient plus être juifs, qui voulaient être grecs. C'est-à-dire, donc ça, c'est encore un petit peu différent. Mais le problème de Sinat Rinam va arriver après, justement à cause de la fin du Beth Amikdash. Mais ça, nous serons obligés d'en parler la semaine prochaine. Et si j'en regarde l'horaire, il est moins le quart, c'est le moment pour vous, Nachon, de rallumer vos micros.
Voilà, vous pouvez rallumer vos micros. C'est la dictature est finie, on repasse en démocratie.
Vous avez
la différence
entre la dictature et la démocratie, David?
L'un c'est bien, l'autre c'est pas bien.
Non, la dictature, elle te dit « tais-toi » et la démocratie, elle dit « cause toujours ».
Vous avez prononcé des noms de sages. Je peux vous poser une question ?
Bien sûr, bien sûr.
Vous avez prononcé très rapidement et je vous demande, à chaque fois que vous donnez des noms de Chachamim ou trucs comme ça, quand ils sont très connus, il n'y a pas de problème. Mais vous avez cité deux noms à la fin de votre phrase, et je n'ai pas compris les noms de ces gens qui ont commencé cette période de la fin avant l'exil.
Quoi, Hillel et Shammai?
Non, Hillel et Shammai, il n'y a pas de problème.
D'accord. Non, vous alors, avez... Peut-être que j'ai parlé de Yossé ben Yoézer et Yossé ben Yohanan.
Il faut aller doucement parce que d'abord il faut noter, puis deuxièmement on les connaît pas tellement.
D'abord, il faut les connaître. Et non, je présume qu'ils soient moins connus que les autres.
Et Madame Sigal, je rajouterai qu'il y a un enregistrement, si vous voulez repasser plus doucement.
Yossi ben Yoezer.
Adam, elle habite pas à Jérusalem, Rav.
Et Yossi ben Yohanan.
Merci beaucoup.
L'un habitait à Tzereda et l'autre habitait à Jérusalem.
Merci.
Arav, voilà. Tu peux poser une question?
Bien sûr.
Vous vous basez sur quoi en racontant tous ces détails? Sur Yosef Flavius ben Matitia ou sur qui?
De quel détail parlez-vous?
Quand vous parlez des Zougot et quand vous parlez de ce qu'il y avait, c'est assez précis. D'où on prend les sources?
Non, alors, il y a deux choses. Si vous me posez la question par rapport à ce que je vous ai expliqué au niveau historique,
oui.
Alors, si c'est la question, elle est au niveau historique. Alors, on a et Flavius Joseph, et Philon d'Alexandrie, et Hérodote. Il y a beaucoup de sources historiques de cette période-là. D'accord ? Donc, ça, c'est la première chose. Ou alors, vous avez également un autre livre historique très intéressant qui s'appelle Tzemach David, qui a été écrit par Rabbi David Gans, qui était l'élève du Maharal de Prague. Et le Maharal lui a demandé d'écrire un livre d'histoire du peuple juif. Depuis la fin du Tanakh jusqu'à son époque. Donc là, des livres historiques, on en a pas mal. Maintenant, pour ce qui est des enseignements, eh bien, vous avez une partie d'entre eux dans la Mishnah de Pirkei Avot, mais c'est aussi l'enseignement de la Torah, de la Kabbalah, de génération en génération.
Oui, merci.
De rien.
Donc c'est sûr
que... C'est sûr quoi?
C'est véridique, c'est ce que je me demande souvent.
Non, je vous mens.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, vous savez, chaque chose qu'on dit aujourd'hui, c'est contredit par d'autres. Vous savez, les gens sont
tellement... Je vous invite à vérifier.
Moi, je ne suis pas vérifiée, je vous fais confiance. Mais je dis, c'est tellement précis que ça fait... C'est étonnant, 2000 ans sont passés, ou 3000 ans, je ne sais pas combien d'années.
Encore une fois, les textes qu'on a sont les textes qu'on a. Peut-être que les textes, eux, ne sont pas véridiques. Peut-être que les sources qu'on a ont été édulcorées. Ça, je ne peux pas
Il était contredit, Yosef ben Matitia. Il n'était pas accepté par tout le monde.
Alors, attention. Yosef ben Matitia ou Flavius Joseph, il est énormément décrié quant à ses prises de position. Mais par rapport à ces descriptions, pour l'instant, tout ce qu'on a pu vérifier de ce qu'il a écrit au niveau historique, s'est avéré exact. On n'a pas encore pu tout vérifier, mais de tous les textes qu'on a pu vérifier, que ce soit en termes de description, en termes de nombre, en termes de choses, eh bien, ça s'est avéré exact. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il ment pour le reste. Après, pour ce qui est de ses prises de position sur est-ce que c'est bien les Romains ou pas bien les Romains, ben ça, c'est son avis personnel.
Oui, merci.
De rien.
Il y a des gens qui ont mis.
Oui, Gabriel Lévy.
Oui. Alors, moi, Rav, durant le cours, j'ai eu l'impression de redécouvrir Pirkei Avot. J'ai vraiment l'impression que finalement, c'est le début de l'enseignement de la Kabbalah. Je vais un petit peu trop loin, mais est-ce que c'est ça, finalement?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que Pirkei Avot est un... Enfin, on va dire pas Pirkei Avot. Le premier chapitre de Pirkei Avot, vous voyez qu'il est très différent des autres chapitres puisqu'il suit un récit chronologique. Ce qui n'est plus le cas après dans le deuxième, troisième, quatrième et cinquième chapitre. C'est-à-dire dans les autres chapitres de Pirkei Avot, les rabbins qui parlent les uns à la suite des autres ne sont pas forcément les uns après les autres. Dans le premier chapitre, on a vraiment une succession, un déroulé de l'historique du peuple juif à ce moment-là. Et même si Pirkei Avot, c'est aussi, c'est marqué dans la Mishnah, donc c'est aussi Torah Shebealpeh, eh bien, comme il s'agit de cette période où se mêlent Torah Takabala, Torah Tassod, Torah Shebealpeh, alors on peut y trouver aussi les bribes en fait, des deux. Il n'y a pas encore une véritable séparation entre les deux. D'accord ?
D'accord. Et les idées qui sont portées donc, dans ce premier chapitre, c'est, on va dire, les grands titres des idées de la Kabbalah, les grands fondements…
De cette époque.
De cette époque.
Exactement.
D'accord.
Mais également les grandes idées de la Torah Taniglé de cette époque. OK ? Ce n'est pas encore aussi séparé que ça va l'être plus tard.
OK. Rav, le livre que vous avez cité d'histoire de Gantz,
Rabbi David Gantz, qui s'appelle Tzemach David.
On peut le trouver ?
Certainement.
C'est intéressant.
Oui, c'est un livre d'histoire, quoi.
Rabbin Messam Arav,
oui. Vous avez une question ?
Tu ne comprends pas cette dichotomie entre le bec d'Amidash qui existe et qu'il n'y a pas de dévouement, parce qu'il me semble que Akadosh Baruch Hu nous parlait entre les kérouvim.
Oui, donc, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, mais le problème, c'est que dans le second temple, il n'y a pas de kérouvim.
Ah, c'est l'époque du second temple.
D'accord. Ah oui. L'époque du second temple. Il n'y a plus de kérouvim. C'est pour ça qu'il n'y a plus de cette névoie.
Merci.
De rien. Oui, Félicia.
Il y a Fabienne Benoguel qui est avant moi.
Ah bah alors, Fabienne.
Mais son
micro. Ouvrez votre micro. Fabienne, votre micro. Votre micro, Fabienne, on ne vous entend pas.
Voilà.
Il n'y a pas de place avant.
Je ne sais pas, je vous ai perdu, je ne vois plus là. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, l'essentiel, c'est que vous m'entendiez.
On vous entend.
La question que je posais, c'est, puisqu'il s'agit ici d'une dichotomie entre intériorité et extériorité, comment arriver à construire cette intériorité qui nous est donnée, on va dire, à la source et la réactiver à l'extérieur ? Parce que moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont un énorme potentiel, une intériorité très, très intense et très forte, mais qui n'arrivent pas à exprimer ça par des peurs ou par je ne sais pas quoi. Mais voilà,
c'est eh bien, une grande... Vous avez raison. Ouais. Se concentrer sur la construction de l'intériorité, c'est une étape préliminaire, c'est une étape première. Effectivement, il ne faut pas s'arrêter à ça. L'exil nous a obligés de nous réfugier uniquement à l'intérieur de l'intérieur et il faut réapprendre à ressortir.
Et les outils, quels sont les outils qui permettent de ressortir justement de cette...
On a toute l'année pour étudier, doucement.
D'accord.
Doucement.
Le manque de peur aussi, le fait qu'on n'ait plus peur.
Ben, par exemple, ça va aider, bien sûr.
Félicia.
Alors, Vaitan, ma question rejoint peut-être un petit peu la question de Fabienne. Quand vous dites qu'il s'occupait de construire l'intérieur, dès qu'il parlait de Kohanim, de
Chachamim... Malheureusement, pas des Kohanim à ce moment-là, puisque les Kohanim sont corrompus à ce moment-là.
Exactement. Et comment ça a été corrompu ? De qui on parle ?
Bah de ceux qui voulaient bien l'entendre. C'est-à-dire que les Chachamim...
Ça veut dire que les peuples, les gens qui arrivent à Jérusalem, à Sukkot, à Pessah, à Shavuot, alors ils ont des gens qui leur parlent autour de Beit Mikdash et chacun écoute ce qu'il a envie d'écouter ou est-ce qu'on...
D'abord
comment
oui.
On fait ça ?
D'abord oui. Et puis, il y avait aussi des Batei Midrash. C'est-à-dire que tout le monde n'était pas forcément... à l'intérieur de l'étude. Ça, c'est vrai à l'époque, c'est vrai aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a des gens qui voulaient comprendre la nouvelle époque dans laquelle ils vivaient, et donc c'était certainement les élèves proches de ces différents chachamim. Puis il y en a d'autres qui vivaient le monde.
Ça veut dire que c'est les Sanhedrin, ils étaient des chachamim qui s'occupaient.
Les Zougot.
Ils sont des membres.
Le Nassi à Sanhedrin et le Av Beit Hadin.
Ok.
Ok.
Et je voulais aussi dire qu'il y a un livre de Rina Andrener sur l'histoire juive biblique.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
C'est et en plus français, récent. Accessible.
D'accord.
Pardon, je continue un petit peu dans ma lancée, mais quand quelqu'un, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont beaucoup de potentiel et qui ont une très forte intériorité, mais qui refusent de se lancer à l'extérieur ou qui ne veulent pas, qui restent un petit peu coincés dans cet état-là. Alors, comment on peut faire
ça peut, bon, d'abord, ça après, c'est des cas personnels. Ça peut être dû à un problème de, de, de manque de confiance en soi, ça peut être dû à un problème de peur de la réussite, ça peut être aussi dû à un problème de... on s'amoindrit, on ne pense pas que véritablement on est au niveau. Mm-hmm. Donc, il y a plein de choses qu'il faut travailler, mais je pense que l'un des trucs principaux sur lesquels il faut travailler, c'est morer à lève. Le fait qu'on ait un cœur écrasé. Et ça, ça a été la grande clala, la grande malédiction de l'exil. Il faut réapprendre à être fier de notre identité.
Merci, Chazak Baruch.
Ça prend du temps.
Ouais.
Oui, Yochevet.
Oui, Rav Eitan, qu'est-ce que vous entendez par construire l'intériorité, s'il vous plaît? Pourriez-vous
détailler? Eh bien, j'entends tout simplement qu'il est fondamental que tous les membres du peuple juif, vous, moi, en tant qu'individu et en tant que collectif, eh bien, on se rende compte que chaque aspect de notre vie doit servir à dévoiler Akadosh Baruch Hu. Qu'on n'est pas seulement rattaché à Dieu lorsqu'on va à la synagogue, mais que chaque étape, chaque aspect, chaque instant de notre existence est relié et doit dévoiler le Créateur. Pour cela, il faut avoir une conscience très aiguë de qui nous sommes à l'intérieur.
C'est une évidence.
C'est ce qu'on peut appeler aussi Emouna quand même.
Oui, ça fait partie de la Emouna, bien sûr. Merci.
Alors, bien, il reste 2 minutes, 3 minutes avant que le Rosh Hashanah qui arrive. Yochevet, vous avez une question?
Non, c'est
bon. La poser.
Gabriel.
Ok. Alors, durant le premier cours, vous aviez introduit les différentes étapes de la Torah Takabala. Mm-hmm. Est-ce que ça serait vrai de dire que la Chassidut, la Torah Tachassidut, est en sorte un retour? Un retour aux connexions de ces valeurs d'intériorité et d'extériorité au niveau individuel, et que la Torah du Rav Kook est un retour à la connexion de ces valeurs au niveau du klal.
Oui, on peut dire ça. On va évidemment le développer au fur et à mesure de nos études, mais comme je l'avais dit à l'époque, la chassidut, c'est la construction de l'âme individuelle de chacun d'entre nous. Selon plusieurs dimensions, chaque rabbi chassidique va avoir son mot à dire. Alors que le Rav Kook va s'occuper de la reconstruction de la nation. D'accord ?
D'accord. Parce qu'on observe quand même dans la chassidout, alors je suppose que ce n'est pas la chassidout qui invente ça, mais elle se concentre énormément justement sur cet aspect-là de connexion, de dévoilement dans l'acte, dans les petites choses de la vie.
Oui, mais au niveau de l'individu.
Au niveau de l'individu, c'est juste.
Voilà, tout à fait. Mais ça, on y reviendra, ne vous inquiétez pas, on va en parler beaucoup de la chassidut. Oui, monsieur Rabban Messan.
Oui, Rav Kacham. Dans votre cours, vous nous dites qu'il faut construire... il y a des choses qui nous ont amenés, qui ont fait que... ils ont construit l'intériorité. Ils se sont concentrés sur la construction de l'intériorité, mais après, il faut aller vers l'extérieur. Je voudrais juste dire, est-ce que... Bon, enfin, si toutes ces choses nous sont arrivées, Akadosh Baruch Hu est au courant, et c'est lui qui a permis que ça nous arrive. Est-ce que de là, nous pourrons tirer une leçon qu'il faut construire d'abord l'intériorité avant d'essayer d'aller vers l'extérieur?
Bien sûr. C'est évident. Il y en a qui l'ont compris. Il y en a malheureusement qui ne l'ont pas compris.
Bien sûr. Toda rabba, Arab Fizo, Toda rabba.
Zako Baruch.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.